Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
En 30 ans, la population mondiale est passée de 4,5 à 7,2 milliards d'habitants. Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté a baissé de plus d'un milliard. Si le succès est réel, il n'est pas encore complet ni définitif. 800 millions de personnes dans le monde vivent encore avec moins de 2 dollars par jour. Bonjour Esther Duflo. Vous êtes professeure en économie du développement au MIT. Vous êtes titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté au Collège de France. Vous avez effectué un certain nombre de recherches dans des domaines assez divers en économie de la pauvreté. Et si je devais essayer de préciser votre travail en quelques mots, je dirais que vous avez fait beaucoup d'études en microéconomie, c'est-à-dire que vous avez tenté de comprendre au travers de petits exemples précis en quoi la pauvreté pouvait par exemple avoir un lien avec les apprentissages à l'école, avec le rôle des femmes, avec des infrastructures à un niveau micro, par exemple, en apportant l'eau potable. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de la lutte contre la pauvreté ?
Ben, je crois que vous avez commencé de la bonne manière. C'est-à-dire, c'est important de dire qu'il y a eu, sur les 20 dernières années, peut-être 30 dernières années, des progrès quand même importants, à la fois en ce qui concerne la pauvreté en termes de revenus ou de consommation. Comme vous l'avez dit, le nombre de gens qui vivent dans la pauvreté extrême a baissé. Mais aussi sur d'autres dimensions de la pauvreté. Par exemple, il y a eu un recul de la mortalité infantile, il y a eu un recul de la mortalité maternelle, il y a eu une forte augmentation du nombre d'enfants qui vont à l'école, etc. Donc, c'est des améliorations qu'on a tendance à pas vraiment voir si on regarde au jour le jour, où il y a toujours des problèmes et ça pourrait toujours être mieux. Et je crois que c'est une bonne chose, en fait, de commencer pour dire, en fait, dans les 20, 30 dernières années, il y a eu de grands progrès dans les luttes contre la pauvreté. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse à quels sont les enjeux, mais c'est une bonne manière de commencer.
C'est une manière aussi de dire, Esther Duflo, et c'est quelque chose qui est sensible au fil des différents papers, comme on dit, des différents articles que vous consacrez à ce thème, vous êtes plutôt optimiste sur nos capacités d'endiguer la pauvreté.
Oui, je crois qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste, dans le sens où je crois qu'on devient pessimiste quand on se dit « Oh là là, il y a tellement de gens qui vivent sous 1 dollar par jour ou 2 dollars par jour, on ne va jamais réussir à éliminer ça complètement. » Et on devient optimiste quand on retourne la question et on se dit « Mais en fait, c'est peut-être vrai, d'ailleurs c'est peut-être pas vrai, c'est possible qu'on arrive d'ici 2030, c'est l'enjeu que s'est fixé la communauté internationale, à réduire ce nombre à zéro et... » Je pense que c'est pas impossible.
C'est réaliste.
Je sais pas si c'est 50-50 qu'on va y arriver, mais c'est possible. Ça dépend de facteurs qui sont un petit peu pas vraiment dans le contrôle de la communauté internationale qui s'est fixé ces objectifs. Ça dépend un petit peu de comment va l'économie mondiale, etc. Mais s'il n'y a pas de grosses catastrophes, soit économiques, soit géopolitiques. C'est envisageable.
Alors, on va essayer de reprendre les différents travaux que vous avez consacrés, qui sont très nombreux à ce sujet. Il y a quand même une dominante, c'est l'école. Le rôle de l'école dans les stratégies de sortie de la pauvreté, et tout d'abord les apprentissages. Au travers des différentes études que vous avez consacrées à ce thème, quelles sont les conclusions provisoires que vous pouvez dresser, Esther Duflo ?
Ben, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher parce que on a l'impression que sur l'école, on pourrait vraiment faire des progrès rapides, dans le sens où on a une idée de quel est le problème. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai une idée de quel est le problème. Alors d'abord, je le disais, presque tous les enfants vont à l'école. Le taux de scolarisation, ce n'est plus un sujet. À part dans quelques pays, qui sont surtout des pays en Afrique, où il y a encore des enfants, peut-être des filles, etc., qui ne vont pas à l'école, en général, ce n'est plus un sujet. Par contre, ce qui est un sujet, et ce qui est un sujet dont on ne se préoccupe que depuis très récemment, c'est qu'ils vont à l'école, les malheureux, pendant 5 ans, 6 ans, ils font toute leur scolarité primaire et ils n'apprennent rien. Il y a une très grande enquête qui est réalisée tous les ans en Inde sur un très très grand échantillon représentatif de toute l'Inde, qui montre qu'ils le font depuis 2005. Et en 2005, à peu près la moitié des enfants qui arrivaient en CM2 savaient lire au niveau du CP. Et en 2006, la moitié des enfants qui arrivaient en CM2 savaient lire au niveau du CP. Et en 2007, pareil. Et en 2008, pareil. Et aujourd'hui, on est en 2017. Les derniers nombres viennent de 2017. Pareil. Donc, il n'y a aucun progrès sur cette question-là. C'est-à-dire, il y a un énorme gaspillage de générations d'enfants qui vont à l'école et qui n'apprennent rien. Et donc, moi, ça a été un de mes gros sujets de se dire comment on peut changer ça, comment on peut...
Comment vous expliquez ça, Esther Duflo ?
Alors, comment j'explique ça ? C'est que dans beaucoup de pays en développement, les programmes scolaires sont extrêmement ambitieux. Bien, bien plus ambitieux que ceux qu'on peut avoir dans nos pays à nous. En France, par exemple, quand on regarde le programme de CE2 en Inde, il faut savoir toutes ces tables de multiplication jusqu'à la table de 15, par exemple. Donc le programme est extrêmement ambitieux. Les enfants ne sont pas prêts pour ce programme extrêmement ambitieux, simplement parce que personne n'est prêt pour ce programme. Mmh. Et en plus, effectivement, c'est des enfants qui sont souvent la première génération qui apprend. Et les enseignants sont soumis à une pression très très forte de finir le programme en question. Donc ce qui se passe, c'est que les enseignants concentrent leur enseignement sur les tout meilleurs de la classe, abandonnant tout le monde au passage. Donc tout le monde passe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, mais ils n'apprennent rien. Et ils se rendent compte assez rapidement que l'école, c'est pas pour eux, parce que de toute façon, ils comprennent rien. J'ai parlé de la lecture, mais c'est encore pire en mathématiques.
Vous insistez beaucoup sur l'apprentissage des mathématiques. On en a parlé cette semaine, mais hasard des choses, c'est également très présent. C'est-à-dire le fait d'être incapable de manier des chiffres, pour vous, c'est là aussi quelque chose de crucial dans la perpétuation de la pauvreté. Expliquez-nous pourquoi, Esther Duflo.
Savoir lire et savoir faire de l'arithmétique et la géométrie fondamentale, c'est une des qualités dont on a besoin pour se promener dans la vie n'importe où. J'ai parlé des performances de lecture, les performances en arithmétique sont encore pires. Il n'y a que 25% des enfants de CM2 qui savent faire sans se tromper une soustraction à deux chiffres avec un reste. Et j'ai travaillé beaucoup sur les mathématiques parce que, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai pu m'allier avec des psychologues, des personnes qui travaillent en sciences cognitives sur la manière dont les tout-petits enfants apprennent les mathématiques avant l'école. On peut en parler dans une seconde si vous voulez. Et aussi parce que les mathématiques, ça nous donne l'exemple le plus clair du gaspillage qu'on voit à l'école. Donc on a pu faire une étude avec des enfants qui travaillent sur les marchés. Mmh. Et quand on voit les enfants sur les marchés en Inde, on voit bien qu'ils savent compter, puisqu'ils rendent le change, etc. On a pu vérifier ça en allant les voir et leur demandant de nous vendre 300 grammes de tomates et 400 grammes d'aubergines, leur donnant 100 roupies et ils nous donnent le change.
Et on envoie. Donc ils savent compter.
96%, quand on envoie des gens pour faire ces achats, 96% de ces enfants font l'opération immédiatement, très très rapidement. Donc ils savent compter. On prend les mêmes enfants et on leur demande de faire des opérations arithmétiques simples, mais qui sont plus dans le contexte du marché, et ils se congèlent complètement et ils sont incapables de faire l'opération. Ils essayent de trouver dans leur dans leur mémoire les algorithmes qu'on leur a appris à l'école pour résoudre ce genre de problème, et au lieu de les trouver, ils trouvent un grand vide. Ils font leur soustraction dans le mauvais sens, etc. Et on n'y arrive pas. Inversement, si on prend des enfants qui sont à l'école et on leur fait faire ces opérations, ils y arrivent mieux. Pas parfaitement, mais ils y arrivent mieux. Maintenant, on leur donne des fruits et des légumes en plastique et on leur demande de jouer au marché et sont incapables de faire les opérations de marché. Donc on apprend qu'il se passe deux choses dans le système éducatif. Un, il y a des compétences qui existent, qui, au lieu d'être valorisés dans le système, de la manière dont les mathématiques sont enseignées en Inde, sont écrabouillés. Et deux, on essaye d'apprendre des choses, de bourrer le crâne de choses aux enfants, et ça leur sert à rien parce qu'ils l'apprennent tellement mal qu'ils sont incapables de s'en servir dans la vie courante. Et on se dit, quand on est face à cette situation, on se dit, c'est incapable de moi, je suis incapable, en quelque sorte, de travailler sur autre chose, vraiment, ne pas m'arrêter à travailler sur ce problème, c'est comment résoudre cette question.
Est-ce que vous avez des pistes à ce sujet? Est-ce qu'au-delà donc de ce constat, on sait comment on peut faire pour mettre à plat la question donc de l'enseignement, des mathématiques, de la lecture dans les pays pauvres?
Oui, c'est justement pour ça, c'est justement la raison pour laquelle j'aime bien travailler sur l'éducation, parce que je crois qu'en fait on a la réponse, et la réponse elle vient du constat initial, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a cette confusion généralisée qui chez tous les enfants, c'est que ce qu'on leur apprend, pour la plupart des enfants, on leur a d'abord très mal appris, et ensuite c'est trop trop ambitieux pour eux. Ils ne savent pas compter parce que ça fait bien longtemps qu'on ne leur apprend plus à compter. On leur apprend la physique nucléaire dans leur classe de CM2. Donc, ils n'ont pas compris les additions, on est déjà passé à autre chose. Donc, la solution, c'est de remettre tout à plat et de faire ce qu'on appelle enseigner au bon niveau. Mmh. On pourrait appeler ça soutien scolaire, mais ce n'est pas vraiment soutien scolaire parce que ça dépend de où sont les enfants. Donc, on a travaillé pendant de nombreuses années avec une formidable organisation indienne qui s'appelle Prata, mais on a pu évaluer scientifiquement, avec des expériences aléatoires, l'impact de leurs actions, et ça marche extrêmement bien. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans une classe, ils regroupent pour une partie de la journée les enfants, pas par âge, mais par compétences, et ensuite ils font des exercices, des activités qui sont liées à ces compétences spécifiquement. Donc si les enfants ne savent pas reconnaître les lettres, même s'ils sont en CM2, on va commencer par leur apprendre à reconnaître les lettres. Et après les groupes changent tout le temps, c'est pas vraiment un système de groupe de niveau permanent, vous êtes étiqueté pas bon, les groupes changent tout le temps sur la base de tests qu'ils font pour les faire passer d'un groupe à l'autre. Et ce test-là, quand on l'a mis en place dans des écoles, ça fait augmenter énormément les résultats, soit à la fois en lecture et en mathématiques.
Mais alors, vous êtes en train de me dire, Esther Duflo, que au travers donc de ces expériences, de ces articles extrêmement empiriques sur un certain nombre de cas que vous avez fait, vous réussissez aussi à lancer des expériences ensuite dans les pays pour faire évoluer les choses.
Tout ce qu'on fait, c'est même pas ensuite. Hein. Toutes mes expériences sont immédiatement dans les pays, mais c'est vrai
c'est pas si fréquent quand même.
Mais il se trouve que c'est mon travail à moi, puis ça s'est généralisé. Il y a plus de gens qui font ça aujourd'hui. Mais effectivement, donc je travaille presque toujours. La nature de mon travail, en fait, hein, c'est de travailler avec un partenaire sur le terrain pour soit mettre en place quelque chose de nouveau, soit travailler avec leur programme à eux et l'essayer scientifiquement avec la rigueur que vous mettriez à essayer un nouveau médicament.
Mais à la fois, le cas de l'Inde est particulièrement édifiant, comme d'autres pays d'Asie. À la fois, on a un système éducatif qui est très dual, c'est-à-dire, comme vous l'expliquiez, de grandes ambitions pour certains, et de moindres ambitions pour d'autres. Je suis toujours frappé, par exemple, dans les programmes éducatifs indien, pour la classe moyenne, je ne parle pas des plus riches, et on a effectivement plusieurs langues parlées, on a un niveau d'exigence qui est bien supérieur au cas français, et d'ailleurs les Français devraient aussi le savoir, parce que ça peut avoir une conséquence sur la manière dont on voit nos programmes éducatifs. Est-ce que ça n'est pas ça qui explique aussi qu'une partie de l'Inde, alors peut-être une partie insuffisante, mais en tout cas une partie, atteigne des niveaux d'excellence particulièrement avérés?
Je ne pense pas, parce que de toute façon, cette partie qui atteint des excellences avérées, elle ne va pas dans les écoles dont on parle. Les écoles où les enfants sortent sans avoir appris à lire, c'est pas les écoles privées d'où viennent les enfants qui vont finalement entrer et être absolument au top de la hiérarchie. Donc je pense que c'est pas vrai. Honnêtement, même si c'était vrai, si c'était un choix de société d'avoir trois personnes qui sont au niveau international en mathématiques ou d'avoir combien de millions d'enfants en Inde, 100 millions d'enfants qui savent lire. C'est un choix, mais bon, moi je dirais plutôt qu'il vaut mieux avoir 100 millions d'enfants qui sachent lire. Et le problème, mais de toute façon, le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que c'est pas vrai que c'est moins ambitieux pour d'autres. Il y a la même ambition pour tout le monde, mais c'est une ambition qui est complètement illusoire, qui se traduit par ce gaspillage. Mais bref, c'est comme ça, il y a ce programme, on en est là. La question, c'est que c'est possible, même à l'intérieur, sans changer, sans faire une grande révolution sur les programmes, qui je pense c'est à peu près impossible à mettre en place, c'est possible d'améliorer en faisant ces activités à l'école supplémentaire. Et donc maintenant, l'autre partie de mon travail, ça a été, on l'a démontré, puis redémontré dans des expériences vraiment très rigoureuses, basées sur les essais aléatoires dans plusieurs régions. Et après, maintenant, ce qu'on essaye de faire avec Pratam et avec le gouvernement, c'est comment avoir une version de ce programme qui est généralisable au sein des classes, que les enseignants vont être capables de mettre en place, etc.
Vous avez parlé donc des écoliers. Il y a aussi un certain nombre d'études faites sur les femmes et sur le développement. Est-ce que là aussi, il y a des pistes de diminution de la pauvreté dans ce domaine-là, le fait donc de se fonder sur les femmes.
Alors c'est un peu le, disons, c'est le goût du jour, et le, en anglais on dirait flavor of the month, de se dire, ah oui, c'est l'importance des femmes. Moi je suis, j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs sur cette question-là. Je trouve que c'est très important de se pencher finalement sur la condition des femmes, d'améliorer leurs conditions à l'intérieur du ménage, à l'extérieur du ménage, de leur permettre de travailler quand elles ont envie de travailler, de s'assurer qu'elles ont un rôle de décision dans ce qui concerne leur propre vie, celle de leurs enfants, etc. Cela dit, je trouve l'argument... oui, il faut investir dans les femmes parce que ça va faire réduire la pauvreté.
Un effet d'entraînement.
Je trouve cet argument un petit peu inconfortable.
Pourquoi ?
Pour deux raisons. D'abord parce que je pense que c'est vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Et d'autre part, et si c'était pas vrai, alors est-ce qu'on n'investirait pas dans les femmes ? Je trouve que se dire que pourquoi il faut instrumentaliser l'investissement dans les femmes et les filles ? Il faut investir dans les femmes et les filles parce que les femmes et les filles, c'est des humains. Et que c'est des humains qui se trouvent pendant des générations et des générations ont reçu moins d'investissement et moins de pouvoir et moins de tout. Et on le voit même aujourd'hui dans les scandales qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, une position en permanence diminuée par rapport aux hommes. Et c'est simplement pas normal. Si ça a un effet sur la pauvreté, tant mieux. Si ça n'en a pas... ça ne change rien.
On va parler aussi des femmes en économie aux environs de 8h20, tout à l'heure, juste après le journal, parmi les nobilisables, parce qu'on constate qu'il y a parmi les Nobel d'économie également très peu de femmes, voire aucun d'ailleurs. J'ai regardé la liste ce matin, sauf erreur de ma part, je n'ai pas repéré de femmes Nobel. Une, vous faites
une.
Une.
Elinor Ostrom.
On essaiera de s'interroger sur ces raisons.